Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Si la promesse hier du Premier ministre Benjamin Netanyahou d'annexer un vaste pan de la Cisjordanie occupée a été saluée par la droite israélienne, que signifie véritablement cette annonce qui intervient une semaine seulement des élections législatives? Ce matin, un porte-parole de l'Union européenne juge que le projet de Benjamin Netanyahou compromet les perspectives d'une paix durable.
Toujours dans votre journal, nous irons également en Catalogne où, 2 ans après la tentative de sécession, les indépendantistes vont compter leurs forces aujourd'hui.
Une manifestation est prévue à Barcelone et ce alors que la sentence judiciaire contre leurs dirigeants est attendue le mois prochain.
Le Conseil économique, social et environnemental présentait ce matin son rapport annuel sur l'état de la France.
Et ses perspectives, on le verra, ne sont pas franchement rassurantes. Après les révélations sur la volonté du gouvernement de reconnaître la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, assure la GPA, demeurera un interdit absolu. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Ruth Mackenzie, la toute nouvelle directrice du Théâtre du Châtelet qui rouvrira ses portes vendredi après 2 ans et demi de travaux. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Qualité partout, qualité nulle part, ce mot qui circule beaucoup et dans toutes les situations aujourd'hui. Le philosophe Pascal Chabot a décidé de l'extirper un tout petit peu du réel pour l'analyser et donc prôner aujourd'hui une révolution qualitariste, c'est-à-dire mettre en avant la qualité de vie. Il nous expliquera pourquoi et comment. Pascal Chabot est notre invité à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Même si l'on savait déjà le plan de paix américain pour le Moyen-Orient presque moribond, Benjamin Netanyahou ne vient-il pas d'enterrer définitivement cette fois-ci tout espoir de parvenir à court terme du moins à un règlement du conflit israélo-palestinien? Hier, à une semaine d'élections législatives qui s'annoncent âprement disputées, le Premier ministre a en effet promis, en cas de victoire, d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie occupée, en l'occurrence les colonies juives de la vallée du Jourdain, laquelle longe la frontière avec la Jordanie. Une annonce aussitôt reçue comme une nouvelle claque au visage par les Palestiniens, mais Benjamin Netanyahou, lui, visiblement, n'en a cure. Et pourquoi? Parce que ces décisions ne répondent au fond qu'un seul et unique objectif, courtiser l'électorat de droite et plus encore rallier des voix à l'extrême droite. Sauf que depuis son opération de communication, certains diront même de propagande, eh bien Benjamin Netanyahou a enregistré quelques déconvenues. Les précisions à Tel Aviv de Frédéric Mettezo.
À chaque élection, Benjamin Netanyahou sort un lapin de son chapeau. Quand les sondages sont serrés, il se replace au centre, il clive et il oblige ses concurrents à réagir par rapport à lui. Mais hier soir, la mécanique s'est grippée. 3 heures après son allocution, le Premier ministre israélien est en meeting à Ashdod, dans le sud, mais il doit évacuer les lieux à cause de roquettes tirées depuis Gaza. Ce midi, ses opposants dénoncent son impuissance face au groupe djihadiste et l'accusent de faire de la communication politicienne autour de la sécurité du pays, qui est habituellement objet de consensus. On notera aussi la réaction inquiète de la Jordanie, pays modéré qui coopère avec Israël et les Occidentaux, et enfin le départ d'un allié de poids de Bibi Netanyahou à Washington, John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, limogé hier soir par Donald Trump. Mais Netanyahou a l'habitude, persuadé que quand l'establishment n'est pas au rendez-vous, les électeurs le seront.
Autre espoir de paix déçu, là aussi sur fond de candidature à une réélection après que Donald Trump eut transformé en promesse de campagne son vœu de rapatrier plus de 14 000 soldats américains en poste en Afghanistan. Voilà plusieurs mois que des représentants de Washington participaient activement à des pourparlers historiques destinés à mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis, du moins jusqu'à ce que le week-end dernier, 3 simples tweets du président ne viennent faire tout capoter et provoquer l'arrêt total des négociations, de sorte que 18 ans après le 11 septembre, la situation actuelle ne fait qu'augurer à présent davantage encore de massacres. Alors évidemment, cet échec ne fait qu'acter plus encore le chaos qui caractérise la politique étrangère de l'administration américaine, avec un président qui, en dépit de sa volonté de réussir là où tous les autres chefs d'État avant lui ont échoué, n'a toujours pas enregistré le moindre succès sur des dossiers aussi stratégiques que l'Afghanistan, mais aussi la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela. Et c'est dans ce contexte donc que l'on a appris hier, Frédéric Mettezo le rappelait à l'instant, le limogeage brutal du conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Ce néo-conservateur, l'un des architectes notamment de l'invasion de l'Irak en 2003, était un belliciste revendiqué. Il voyait par ailleurs d'un très mauvais œil la fameuse rencontre secrète prévue justement à Camp David avec des talibans. En clair, ces divergences de vues avec Donald Trump étaient devenues de plus en plus flagrantes. Depuis la publication de son produit intérieur brut en recul au deuxième trimestre, les spéculations vont bon train en Allemagne sur une possible entrée en récession de la première économie européenne. L'occasion notamment de relancer les débats autour du fameux dogme budgétaire outre-Rhin, étant entendu que la règle constitutionnelle prévoit des dérogations en cas de crise économique. Sauf qu'hier, balayant toutes les spéculations des marchés sur un éventuel plan de relance, eh bien le ministre allemand des Finances a présenté un budget 2020 à l'équilibre, comprenait 100 nouvelles dettes. Ou dit autrement, Berlin entend bien résister aujourd'hui à toute tentative de ses partenaires sociaux-démocrates de relâcher les cordons de la bourse pour faire face à la menace de récession. Les précisions à Berlin de David Philippot.
Oui, dans un pays où le taux de chômage est au plus bas depuis la réunification, où la consommation des ménages reste solide, le ministre des Finances allemand pense qu'il y a là une faiblesse de la conjoncture, mais pas une vraie crise économique. À la tribune du Bundestag, le social-démocrate Olaf Scholz défend l'équilibre des comptes.
Comme les deux fois précédentes, c'est un budget solide et sans nouvelles dettes. Et pourtant, nous avons utilisé nos marges de manœuvre et c'est un budget en expansion qui contient beaucoup d'investissements et de décisions pour l'avenir. Et c'est bien ainsi car de grands défis se présentent.
Des défis comme la digitalisation ou la lutte contre le réchauffement climatique, le budget qui est discuté au Parlement allemand n'inclut pas les dépenses prévues pour le plan climat qui sera présenté le 20 septembre, des dépenses justifiées par la chancelière Merkel.
Porter la lutte contre la protection du climat va nous coûter de l'argent, mais c'est de l'argent bien investi, car ne rien faire va nous coûter encore plus. C'est cela la vérité et pas l'alternative.
Des dépenses critiquées par les climato-sceptiques de l'Alternative pour l'Allemagne par la voix de la présidente de son groupe parlementaire, Alice Weidel.
C'est une idéologie écologique et communiste qui ruine notre pays et qui sabote ses capacités pour l'avenir. Ce gouvernement porte la responsabilité du démantèlement de l'industrie automobile à cause de la protection du climat et de son économie planifiée pour la voiture électrique.
En cas de récession, le gouvernement allemand dispose de milliards d'euros qu'il injectera si nécessaire pour soutenir l'économie, une position d'attente critiquée par l'extrême gauche et les écologistes qui demandent au gouvernement d'abandonner le plus vite possible le dogme du budget à l'équilibre.
Comme chaque 11 septembre, depuis 7 ans maintenant, les indépendantistes catalans ont prévu d'organiser aujourd'hui une grande manifestation à l'occasion du jour de la Diada, commémorant la chute de Barcelone lors de la guerre de succession d'Espagne. L'occasion notamment pour les séparatistes de compter leurs forces, qui plus est à quelques semaines seulement de l'annonce attendue en octobre de la sentence contre leurs 12 dirigeants jugés par la Cour suprême. Élise Delève, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Barcelone. Alors 2 ans après le référendum interdit, la vaine proclamation donc d'une république catalane indépendante, les séparatistes sont toujours au pouvoir dans la région. En revanche, là où tous les partis avaient réussi à faire front commun en 2017, à présent, Élise, l'unité n'est plus franchement de mise.
Oui, Thomas, vous vous en souvenez, il y a 2 ans, la fête avait duré jusqu'au petit matin. Des vagues or et sang, couleur du drapeau catalan, inondaient les rues de Barcelone. Carles Puigdemont, leader incontesté, était propulsé au rang de président. 2 ans plus tard, on ne trouve plus que la photo du dirigeant dans les couloirs du Parlement catalan. Lui est exilé en Belgique. Depuis Waterloo, où il vit, il impose la ligne à suivre à son parti, Junts per Catalunya, Ensemble pour la Catalogne. Il prône la confrontation avec Madrid, pas de concession. Cette fermeté a créé une scission au sein des indépendantistes. Les militants se sont peu à peu tournés vers l'ERC, la gauche républicaine, plus favorable à un dialogue avec le pouvoir central. Son dirigeant, Oriol Junqueras, oriente les stratégie politique depuis la prison. Grâce aux lettres qu'il envoie et aux visites qu'il reçoit, son compte Twitter est toujours actif, mis à jour par ses proches. Beaucoup de militants saluent le courage des dirigeants emprisonnés face à la lâcheté de ceux qui ont fui à l'étranger. Difficile dans ce contexte de s'entendre politiquement. La manifestation de cet après-midi sera un test pour voir où en est l'unité indépendantiste. Malgré les divisions, les partis et associations ont appelé à marcher ensemble pour montrer à l'État et à la justice espagnole que le combat pour l'indépendance n'est pas terminé.
Merci Élise Delève en direct de Barcelone. Le feuilleton tragicomique du Brexit se poursuit ce matin. Une cour d'appel écossaise a jugé illégale la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines avant la sortie du Royaume-Uni de l'UE prévue le 31 octobre. La cour d'appel d'Édimbourg estime que cette décision a pour but d'entraver le Parlement. Le gouvernement a aussitôt décidé de faire appel Quoi qu'il en soit, il s'agit là de la première victoire judiciaire des opposants à cette suspension extrêmement controversée. Le Conseil économique et social et environnemental présentait ce matin son rapport annuel sur l'état de la France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne conduit pas à se montrer très optimiste. Selon le CESE, il y aurait aujourd'hui deux problématiques majeures, celle du pouvoir d'achat d'une part et celle de la transition écologique d'autre part, l'une non dissociable de l'autre. Alors dans sa liste de préconisations, le Conseil propose notamment d'arrêter de faire de la croissance un horizon indépassable. À ce titre, je vous propose d'écouter Hervé Bouler. Il est co-rapporteur donc de ce rapport annuel sur l'état de la France et membre de la commission nature et environnement au CESE. Pour lui, vous allez l'entendre, on est passé bien au-delà du simple sentiment d'inégalité, car elle est devenue aujourd'hui une réalité. Il répond à Anne Lorchouin.
S'il y a des ressentis d'injustice, des ressentis d'inégalité, il y a des réalités chiffrées, objectives, qui montrent que c'est vrai. Ça tord un peu le cou à l'idée que les Français seraient un peuple qui pleurerait la bouche pleine, qui n'aurait finalement pas tant à se plaindre que ça. Et ça concerne en particulier toute une partie de nos concitoyens qui maintenant, depuis des décennies, voire depuis des générations, sont bloqués avec le sentiment qu'il n'y a plus d'ascenseur social, qu'il n'y a plus de possibilité par le travail ou l'éducation de s'en sortir et de faire en sorte que l'on vive mieux. Et ça amène à un sentiment qui est très partagé et qui est manifeste, le sentiment que pour la première fois, on est à un tournant de l'histoire où les générations qui viendront après nous vivront moins bien que la génération où on se trouve. C'est ce sentiment de blocage de l'idée de progrès qui est probablement l'un des facteurs très très forts du pessimisme des Français. Et ça amène un sentiment d'inégalité dans un peuple français qui est profondément attaché à la partie égalité de notre devise.
On a Hervé Bouler, donc, du Conseil économique, social et environnemental. Il répondait à Anne Lorchouin. Après que l'ex-députée européenne Sylvie Goulard, laquelle s'est vue confier hier un important portefeuille économique au sein de la prochaine commission, a été entendue par les policiers, c'était au tour du président du Modem, François Bayrou, et de sa vice-présidente, Marielle de Sarnez, d'être auditionnée ce matin dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Le Modem est soupçonné d'avoir utilisé des crédits européens pour rémunérer des assistants parlementaires d'eurodéputés au service du parti. En plein débat sur la loi de bioéthique, le gouvernement a admis hier la nécessité de clarifier l'état du droit pour les enfants nés à l'étranger de mères porteuses, une pratique, rappelons-le, prohibée en France. Ces discussions autour de la gestation pour autrui ont en effet ressurgi après l'annonce d'une future circulaire du gouvernement visant à reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Alors, afin de couper court aux spéculations, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a aussitôt démenti vigoureusement à l'Assemblée la prétendue intention du gouvernement de reconnaître de manière automatique la filiation des enfants nés de GPA réalisée à l'étranger, c'est-à-dire la retranscription directe et intégrale de leurs actes de naissance à l'état civil français, sauf que l'incertitude demeure sur le contenu donc de cette circulaire qui doit clarifier l'état du droit, mais dont la rédaction est aujourd'hui suspendue à une décision de la Cour de cassation. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors précisons que la GPA, qui ne figure pas dans le projet de loi bioéthique, à présent que la question est à nouveau posée, ce dossier, Stéphane, risque-t-il de venir polluer les débats à l'Assemblée ?
À ce stade, il est assez difficile de répondre à cette question, mais le sujet de la grossesse pour autrui est un ingrédient supplémentaire ajouté à la recette de cuisine politique qu'avait patiemment élaboré le gouvernement sur la bioéthique, et on ne sait pas bien quels effets il pourrait avoir au bout du compte s'il est susceptible de fédérer les oppositions comme en 2013 avec le mariage pour tous. Car la GPA est un casus belli pour bon nombre d'associations et pas seulement à droite, parce que derrière cette revendication d'une partie de la communauté homosexuelle, il y a la question de la marchandisation du corps des femmes, en particulier dans les pays pauvres. Un conseiller ministériel résume la question en ces termes: s'il s'agit de demander à une femme qui a déjà eu des enfants et qui n'a pas besoin d'argent d'aider un couple infertile à en avoir un, là, pas de problème. Mais là, on est dans un monde idéal, parce que la réalité, c'est plutôt la jeune fille de 17 ans et demi qui vit au Bangladesh ou ailleurs, dont la famille dispose de quelques dizaines d'euros par mois et à qui on va demander de porter l'enfant d'un couple de Français pour quelques milliers d'euros. Et là, franchement, est-ce que le pays des Lumières peut accepter ce genre de choses ? Je ne crois pas. Or, c'est bien ça le risque que pointent bon nombre de détracteurs de la GPA, qu'on fasse un pas supplémentaire vers sa légalisation avec la solution envisagée par le gouvernement pour reconnaître les enfants nés par GPA à l'étranger. Il s'agit de reconnaître la filiation pour le géniteur et de faciliter l'adoption pour le deuxième parent, et ça à travers une circulaire, mais en marge de la loi. Le problème est que quelques députés ont bien l'intention d'introduire ce débat dans les discussions sur la loi bioéthique à partir du 23 septembre avec des amendements qu'ils ont d'ores et déjà rédigés. Alors est-ce que c'est susceptible de réveiller les oppositions? En tout cas, on a senti le gouvernement hier et notamment la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, vous le disiez, très embarrassée par la question. La GPA est et restera interdite en France, a-t-elle tenté de se justifier?
Merci Stéphane Robert. C'était hier soir l'occasion du match de qualification France-Andorre à l'Euro 2020. Pendant 90 minutes, le patron du foot français et la ministre des Sports se sont retrouvés côte à côte en tribune officielle. Et la fermeté de leur visage résumait à elle seule la situation qui les oppose. D'un côté, Noël Le Graët ne digère pas que son sport soit pointé du doigt dans son ensemble en raison du comportement raciste et homophobe de certains supporters. Et puis de l'autre, Roxana Maricene-Anou, laquelle veut jouer pleinement son rôle de pouvoir public en incitant les acteurs du dossier à se réunir pour éradiquer ces comportements qui relèvent du délit. Jean-Pierre Blimaud, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, une réunion doit se tenir à la Ligue professionnelle de football avec des associations qui luttent contre l'homophobie, mais aussi des supporters, du moins ont-ils été conviés, sauf Jean-Pierre, qu'ils se font encore désirer.
Oui, il est bien difficile de réunir autour d'une même table les dirigeants du foot français, des associations de lutte contre l'homophobie et les supporters. Programmés dans un premier temps, la semaine dernière, jeudi pour être précis, cette réunion a déjà été décalée d'une semaine à la demande de l'Association nationale des supporters qui souhaitait au préalable réunir son Assemblée générale. Sauf que cette association est à nouveau réticente. Hier, elle publie sur les réseaux sociaux un communiqué en posant ses conditions, que l'on ne parle pas forcément seulement de l'homophobie, mais aussi de tous les sujets qui fâchent, comme par exemple des interdictions de stade ou de déplacements de supporters qui se sont multipliés l'an dernier. Alors, en attendant, la Ligue de football professionnel travaille sur le sujet depuis près de 2 ans et refuse qu'on reporte à nouveau cette réunion cruciale. SOS Homophobie, Foot Ensemble, Paname Boys, mais aussi la LICRA ont été conviés. L'un des membres d'SOS Homophobie me disait hier, par exemple, qu'il fallait surtout établir un dialogue avec les supporters, car la Ligue de foot semblait déjà très engagée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si les supporters seront là. Alors, l'un des moments importants, et j'en terminerai par là, ce sera la conférence de presse aux alentours de 17h avec Nathalie Bois de la Tour, la présidente de la Ligue de football professionnel, qui dépend de la fédération, et donc de Noël Le Graët, qui a déclaré hier qu'il s'opposait à l'arrêt des matchs en cas d'injure homophobe. Taclé dans la journée par la ministre des Sports, qui a parlé de propos erronés, le président Macron veut lui que l'on soit intraitable sur le fond, mais que la Ligue et les clubs doivent prendre leurs responsabilités. Réunion quand même plutôt tendue qui s'annonce donc cet après-midi à Paris.
Merci Jean-Pierre Blimaud. Scène phare de la vie culturelle parisienne, le théâtre du Châtelet rouvrira ses portes vendredi après 2 ans et demi de travaux. Le bâtiment a été rénové à hauteur de 26,5 millions d'euros financés par son propriétaire, la ville de Paris, et pour le tout pour retrouver son aspect initial très coloré tel que lors de son inauguration, c'était en 1862. Et puis ce retour au patrimoine d'origine s'est aussi accompagné d'une cure de jouvence de ses installations techniques, mais également l'objectif aujourd'hui de garder la tendance qui avait été initiée par son ancien directeur Jean-Luc Choplin, lequel était parvenu à rajeunir le public, notamment en misant sur la comédie musicale. Enfin, le théâtre a également changé de direction. Et nous avons le plaisir donc de recevoir aujourd'hui sa toute nouvelle directrice, Ruth McKenzie. Bonjour madame.
Bonjour, merci.
À mes côtés pour vous interroger, Cécile de Carvaz-Douet. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Première question madame McKenzie, je crois que ce qui vous a permis de remporter la direction du Châtelet, c'est avec votre binôme Thomas Loriot di Prévost, c'est que vous avez promis d'en faire un théâtre plus accessible et surtout plus citoyen. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, comme vous avez dit, nous sommes le théâtre municipal de Paris et donc pour tous les citoyennes et citoyens de Paris, on a déjà payé pour le théâtre. Et c'est notre devoir de trouver les choses faire pour les citoyennes et citoyens. C'est tout court, c'est tout simple.
Est-ce qu'il y a un déficit démocratique?
Oui. Il y a un déficit démocratique. Les citoyennes, les citoyens ont payé déjà, mais les citoyens et citoyens n'ont pas le choix de dire est-ce que Ruth McKenzie peut être une directrice formidable ou mauvaise, est-ce que le programme c'est pertinent pour nous, est-ce qu'il y a assez des ateliers pour les jeunes par exemple, ou les formations pour les techniciens, pour les artistes, pour les citoyens même. Il n'y a pas un moyen de prendre pouvoir de notre théâtre, c'est-à-dire de votre théâtre.
Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Depuis janvier, vous avez organisé des réunions, vous êtes allé à la rencontre des citoyens, racontez-nous un peu.
Donc, nous avons commencé avec l'idée de demander aux citoyennes et citoyens qu'est-ce que c'est le prioritaire pour le théâtre du Châtelet. Nous avons demandé à 8000 maintenant, citoyennes et citoyens, c'est pas mal, pendant les débats, pendant les ateliers et avec les questionnaires et les sondages.
Oui, vous êtes allé donc dans des mairies d'arrondissement, vous êtes allé dans l'espace public, à Paris-Plage, vous avez lancé une grande consultation en ligne. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent ces citoyens quand vous leur posez la question « Quel théâtre voulez-vous ?»
Bon, le prioritaire, ce n'est pas une surprise peut-être, c'est de faire les choses avec et pour les jeunes et avec et pour les familles. Et ça, c'est un très bon point de départ pour nous, mais aussi de faire les créations spectaculaires dans la tradition du théâtre du Châtelet pour tout le monde.
Et justement pour tout le monde, donc vous avez lancé tout un projet qui s'appelle Châtelet 2030 sur 10 ans, où l'idée finalement, et c'est aussi pour cette raison-là que vous avez été choisi pour diriger le théâtre, l'idée c'est d'ouvrir les portes du théâtre. Alors c'est un peu une ancienne hein, quand même, hein, c'est quelque chose que beaucoup de directeurs de théâtre ont dit depuis des décennies, mais vous décidez de l'ouvrir et particulièrement au Grand Paris, particulièrement à la banlieue, comment vous faites?
Nous avons commencé avec les ateliers dans le banlieue, avec les jeunes et avec les adultes aussi, pour les deux premiers spectacles, Parade et puis Les Justes. On a fait les ateliers à Aulnay-sur-Bois, à Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Montreuil, à Bobigny. Et pour nous, c'est un processus avec les artistes énormément riche pour créer vraiment des spectacles ensemble.
Parce qu'effectivement, vous allez donc donner ce premier spectacle vendredi prochain, Parade, donc, qui était un spectacle phare qui avait été donné au Théâtre du Châtelet en 1917. Spectacle de Cocteau sur une musique de Satie avec les décors de Picasso. Et là, vous allez mélanger finalement des artistes de renommée internationale avec des jeunes de banlieue.
Les jeunes de banlieue, les enfants, les étudiants, les adultes qui ont appris la percussion, qui ont fait les géants, les marionnettes géants, qui ont écrit une pièce pour le Parvis à l'Hôtel de Ville et qui créent le monde de Satie dans toutes les salles des foyers de théâtre du Châtelet. Donc, les amateurs, on peut dire, moi je n'aime pas beaucoup le mot, les participants, nous donnent des éléments énormes de notre spectacle.
Et ils sont rémunérés?
Non, mais on a appris beaucoup. Et c'est un esprit de formation avec les citoyennes et les citoyens, et avec les enfants et les élèves. Mais aussi pour nous, on a partagé les idées, même les enjeux, qui sont énormément importants pour nous.
Donc l'idée, en fait, si je comprends bien, c'est de faire du participatif. Alors vous faites du participatif. Par ailleurs, vous faites aussi des conditions tarifaires un peu particulières. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 10 000 places à 10 euros pour les moins de 25 ans, des places gratuites. Et puis on va aussi pouvoir acheter des places pour des gens qui n'auraient pas les moyens d'aller au théâtre.
Oui, nous avons lancé une idée. C'est une idée anglaise, je dois dire. Vous vous souvenez, Robin de Bois, il a volé des riches pour donner aux pauvres. Donc, on a un cercle des Robin de Bois qui se volent pour donner aux gens qui ne peuvent pas acheter les billets eux-mêmes. Et ça, c'est un esprit, une priorité très importante pour nous.
Et l'autre priorité, enfin la dernière priorité peut-être pour cette interview, c'est la création. Alors, quel type de création justement? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend répéter partout. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi la clé?
Je pense que c'était très important de se souvenir que Parade, c'était une création de théâtre de Châtelet en 1917, mais c'était la première fois que Eric Satie a essayé d'écrire un ballet. C'était la première fois que Pablo Picasso a essayé de faire le décor. C'était la première fois, et je pense la dernière fois, que Cocteau a écrit un ballet aussi. Et pour nous, on doit trouver une génération nouveau, des géants peut-être, des amateurs, mais aussi les artistes énormes qui viennent de tous les pays du monde, qui peuvent créer encore les créations extraordinaires pour les citoyennes et les citoyens de Paris.
Merci Ruth McKenzie, directrice, je le rappelle, du Théâtre du Châtelet d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Cécile de Carvaz-Doué. On termine avec un mot de météo. Un ciel gris enveloppera cet après-midi toute la moitié nord du pays, tandis que le soleil fera son retour au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.